Eh bien, merci Jean-Daniel pour la présentation. Merci aussi pour l'invitation à donner ce séminaire dans cet endroit prestigieux. Et donc, je vais en effet aborder la question de la modélisation des interactions entre macromolécules sous un angle non seulement géométrique, mais qui, comme Jean-Daniel l'a dit, impliquera un certain nombre d'aspects. Et donc, pour motiver un petit peu ce qui va suivre, eh bien, voici par exemple une cellule représentée de façon artistique par David Goodsell du Scripps. Et comme vous le voyez, c'est la structure est relativement compliquée dans la mesure où ce que vous voyez ici, ce sont des macromolécules dont certaines vont interagir pour rendre compte d'un certain nombre de phénomènes biologiques. Alors, pour ne citer qu'un exemple, vous avez ici un moteur moléculaire qui est responsable du mouvement de ce flagelle, n'est-ce pas ? Il s'agit des Escherichia coli. Et donc, ce qu'on va essayer de faire dans cet exposé, c'est de comprendre, de développer des modèles géométriques qui permettent d'appréhender l'émergence d'un certain nombre de fonctions biologiques. Donc, l'exposé du cours sera le suivant. Je vais prendre, disons, un bon quart d'heure pour essayer de poser la motivation à la fois sous l'angle biologique, mais aussi sous l'angle de la physico-chimie, de façon à définir des quantités que nous essaierons d'estimer précisément justement à l'aide de modèles géométriques et statistiques. Alors, plus précisément, donc, j'évoquerai d'abord comment les fonctions biologiques émergent en mélangeant en fait un aspect géométrique, c'est-à-dire ce qu'appellerait la géométrie d'une molécule, c'est essentiellement sa structure, qui nous est donnée par les coordonnées des atomes, n'est-ce pas ? Et évidemment, la dynamique sera la façon dont ces coordonnées changent au cours du temps, de façon à faire émerger des propriétés macroscopiques. Cette motivation est imposée, donc je définirai précisément les quantités auquel on s'intéressera par la suite, à savoir, en l'occurrence, l'affinité de liaison entre deux macromolécules, qui est la quantité que l'on essaiera d'estimer et qui est importante parce qu'elle qualifie justement la force de l'association de deux macromolécules. Et puis, je déroulerai deux catégories de modèles qui utilisent les constructions dont Jean-Daniel a parlé, en particulier les diagrammes de Voronoi. Alors, dans un premier temps, on étudiera des méthodes relevant du machine learning au sens large, permettant d'estimer l'affinité de liaison. Et donc, vous verrez, ce sont des modèles phénoménologiques qui prédisent sans vraiment expliquer, mais qui, dans certains cas, conduisent à des résultats remarquables. Et on évoquera dans un second temps des modèles que l'on peut qualifier d'ab initio, qui sont plus près de la physique, qui utilisent ce qu'on appelle des champs de force, et qui essaient de dérouler la vie de la molécule en partant du niveau microscopique de façon à faire émerger des propriétés macroscopiques. Et puis, je conclurai. Alors, pour poser la motivation biologique, j'ai pris deux vidéos pour ceux d'entre vous qui ne sont pas très familiers avec la biologie. Alors, la première va nous montrer un phénomène extrêmement important qui est la synthèse d'une chaîne polypeptidique par le ribosome. Alors, voyons, la vidéo est ici. C'est une vidéo qu'on trouve sur Internet. Alors, ça n'est pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Allons-y. Voilà. Donc, c'est une vidéo qui a été faite à partir de structures cristallographiques du ribosome, donc structures pour lesquelles le prix Nobel de chimie 2009 a été décerné. Ce que vous voyez ici, en jaune, c'est un ARN messager, n'est-ce pas, qui est issu de. C'est une copie du gène, pour faire bref. Et ce que l'on voit ici, c'est l'ARN messager, un jaune qui passe dans cette machine moléculaire qui s'appelle le ribosome, qui est assez compliqué. En fait, il y a une centaine de sous-unités qui sont à la fois des protéines, des acides nucléiques. Et le ribosome synthétise en fait une chaîne polypeptidique que vous voyez en rouge. Autrement dit, en fait, ils collent ensemble ce qu'ils appellent des acides aminés. Et donc, on va voir un petit peu plus précisément ce qui se passe. Alors, voici donc la première sous-unité du ribosome, voici la seconde. Les deux prennent en sandwich l'ARN messager. Cet ARN messager, en fait, si on prenait trois éléments consécutifs, c'est ce qui s'appelle donc un codon, qui code pour un acide aminé. Et les acides aminés sont transportés au ribosome par des ARN de transfert, qui sont ces molécules jaunes qui virevoltent, et à l'extrémité desquelles, en fait, nous avons en rouge les acides aminés, qui vont être collés les uns aux autres par le ribosome. Voilà. Donc ça, c'est une machine moléculaire particulièrement compliquée, dont le fonctionnement n'est pas très bien compris. On sait simplement, donc, à partir des structures cristallographiques et un certain nombre d'autres expériences, à peu près ce qui se passe, mais on n'a pas à ce jour de simulation et de calcul à l'échelle atomique qui nous explique dans le menu détail ce qui se passe. Donc voici la première motivation que je voulais présenter. Donc, c'est une machine moléculaire dont le fonctionnement, comme vous l'avez vu, donc, est lié à des phénomènes dynamiques. Alors, pour être un petit peu plus précis, j'ai pris un second exemple qui relève de l'immunologie structurale. Et cet exemple, en fait, est celui de l'interaction entre des anticorps sécrétés par nos lymphocytes B et d'un virus. Alors, vous avez ici le virus d'influenza, le virus de la grippe. Alors, sur ce virus, on voit un certain nombre de structures, en particulier celle-ci, qu'on appelle donc des trimères d'hémagglutinine. Alors, un trimère, comme son nom l'indique, eh bien, il nous dit qu'il y a, là trois fois la même molécule, la même protéine, qui est l'hémagglutinine. Et en fait, ces trimères sont les harpons avec lesquels le virus va s'accrocher à nos cellules. Et lorsque cet arrimage a eu lieu, eh bien, les deux membranes se rapprochent et le virus injecte son matériel génétique à l'intérieur de nos cellules. Et donc, c'est l'infection qui a lieu et qui va conduire à la réplication du virus. De façon intéressante, notre système immunitaire répond entre autres avec des molécules que l'on appelle des anticorps, que vous avez représentées ici à la bonne échelle à peu près. Et un anticorps, donc, c'est une molécule qui, comme vous le voyez, a deux bras, en fait, un bras gauche ici et un bras droit, et l'extrémité de ces bras va venir se fixer en fait sur les trimères d'hémagglutinine. Et évidemment, si cette fixation est suffisamment stable, eh bien, les harpons du virus de la grippe ne vont pas être disponibles et le virus ne va pas pouvoir s'accrocher à nos cellules. Autrement dit, la réponse immunitaire va être efficace si l'affinité des anticorps pour l'hémagglutinine est suffisamment grande. Alors, vous avez ici une représentation à l'échelle atomique de ce qui se passe réellement à partir de structures cristallographiques que l'on trouve dans la protéine databank. Et donc, plus précisément, ce que nous voyons ici, c'est... alors, vous avez, il faut savoir que l'hémagglutinine a deux chaînes polypeptidiques, donc une verte, une représentée en vert, une représentée en rose ici. Et vous voyez ce qui se passe lorsque un anticorps... Alors, vous avez ici la partie terminale de l'anticorps, ce qui s'appelle le Fab, ici, donc cette partie bleue et l'alter ego en rouge, ici. Lorsque le Fab se fixe sur l'hémagglutinine, eh bien, ça donne ceci. Et alors, il y a deux configurations de fixation qui sont particulièrement intéressantes. C'est celle où l'anticorps se fixe sur la tête de l'hémagglutinine, auquel cas le harpon n'est plus disponible pour infecter la cellule, pour s'accrocher à la cellule. Et la deuxième configuration, en fait, c'est celle où le harpon se fixe à la base, sur la chaîne polypeptidique rose, qui, en fait, est la partie qui est responsable du rapprochement de la membrane du virus avec la membrane de nos cellules. Et donc, un anticorps qui se fixe ici, en fait, empêche le changement de conformation qui permet la fusion des membranes. Voilà. Donc, voici, c'est le genre de complexe auquel on va s'intéresser par la suite, un complexe, en l'occurrence, antigène-anticorps. Et encore une fois, ce genre de complexe va conduire à une réponse immunitaire efficace si l'arrimage de l'anticorps sur l'antigène est suffisamment solide, si vous m'autorisez l'expression. Alors, je vous ai montré un phénomène éminemment dynamique qui est la synthèse des protéines. On a ici un complexe antigène-anticorps que l'on peut étudier dans le menu détail, c'est-à-dire à l'échelle atomique à partir de structures cristallographiques. Je voudrais enfoncer le clou concernant la nécessité d'appréhender les aspects dynamiques des complexes protéines-protéines avec cette vidéo, en fait, qui a été produite par Michael Levitt, qui est l'un des récipiendaires du prix Nobel de chimie 2013. Michael étant le co-inventeur, si je puis dire, de la dynamique moléculaire, c'est-à-dire la simulation à l'échelle atomique de molécules à partir de l'équation de Newton avec des forces qui sont dérivées d'un modèle d'énergie potentielle régissant les interactions entre atomes. Et donc, comme vous allez le voir sur cette vidéo, qui encore une fois est la première dynamique moléculaire produite sur un ordinateur, eh bien, lorsque on déroule l'équation de Newton avec des forces qui dérivent de l'énergie potentielle qualifiée à l'interaction entre les atomes, donc je vais aller directement à la dynamique, eh bien, on voit ce genre de choses, c'est-à-dire des mouvements. Alors évidemment, l'échelle de temps ici n'est pas pertinente, puisqu'il faut savoir que le pas de temps d'intégration en dynamique moléculaire est de l'ordre de la femtoseconde. Néanmoins, donc, ce qui se passe, eh bien, c'est que les atomes bougent à très haute fréquence, et ces changements de position conduisent à des changements de conformation de la molécule, qui, évidemment, lorsqu'on déroule le film suffisamment longtemps, peuvent avoir une incidence dramatique en fait, sur l'aptitude de la molécule à s'associer avec une autre. N'est-ce pas ? Donc, cette vidéo pour vous montrer que lorsque l'on s'intéresse à l'interaction protéine-protéine, eh bien, il faut appréhender la dynamique, d'une part parce qu'elle conduit à des changements de conformation, mais aussi parce que c'est cette dynamique qui qualifie l'entropie du système. Et l'entropie du système, en fait, on va y revenir, parce que c'est un élément majeur intervenant dans l'affinité de liaison entre protéines. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, la suite de mon exposé a vocation à essayer de développer des modèles pour prédire l'association entre deux protéines. Et donc, avant d'introduire ces modèles, je vais évoquer assez rapidement ce qu'on appelle les modèles de docking. Alors, le docking, le mot anglais, donc, signifie, la traduction directe, c'est l'arrimage de deux molécules. Et vous connaissez sans doute l'historique de ce problème-là. Le premier scientifique ayant proposé des modèles pour le docking étant Fischer, qui par ailleurs a été le deuxième récipiendaire du prix Nobel de chimie en 1902. Et donc Fischer avait stipulé que les molécules s'associaient de façon rigide avec un mécanisme de type clé-serrure, c'est-à-dire lorsque deux molécules s'associent, eh bien, leurs formes sont complémentaires, ce qui conduit disons, à la formation du complexe. Alors plus tard, les gens ont compris qu'évidemment, en fonction de la température, les molécules se déforment, etc. Et donc la nécessité est apparue de prendre en compte des déformations des molécules, ce qui a conduit à des modèles de type induced fit, où finalement, lorsque les molécules sont suffisamment proches, elles ne sont pas forcément dans des conformations complémentaires. Néanmoins, les forces d'interaction entre les atomes qui les constituent, en particulier l'électrostatique, eh bien ces forces vont conduire à des changements de conformation de telle sorte que l'association va pouvoir se produire. Et encore un petit peu plus tard, les gens ont compris que le phénomène était en fait beaucoup plus dynamique que cela, puisque dans la cellule ou dans le milieu intercellulaire, eh bien, chacune des molécules existe en un grand nombre de copies. Chaque copie eh bien, vit sa vie, explore son espace de conformation, et donc les molécules vont s'associer et se dissocier au gré donc, des rencontres dans la cellule, et c'est ce qu'on appelle des modèles de sélection de conformères. Donc tout ceci pour dire que lorsqu'on va s'intéresser à l'association de deux molécules, il y a deux aspects extrêmement importants. Il y a un aspect géométrique qui va permettre de qualifier, disons, l'adéquation des surfaces, leur complémentarité. Et donc on va évoquer ce genre d'aspect en utilisant des diagrammes de Voronoi et les diagrammes de molécules qui ont été présentés dans le cours de Jean-Daniel. Et il y a par ailleurs un aspect relatif à la physique, en particulier, disons, les forces, bien sûr, mais surtout l'entropie, dans la mesure où, comme on l'a vu sur la vidéo de Michael Levitt, eh bien, les molécules se déforment. Et donc, qui dit déformation, dit dynamique, dit entropie. Et donc, il va falloir essayer, de façon à prédire de façon fiable l'association de molécules, de capturer à la fois ces aspects stériques, d'une part, et ces aspects dynamiques, d'autre part. Et évidemment, ce sont des challenges extrêmement compliqués. Alors, une façon de voir l'importance de la dynamique, donc j'aime bien cette métaphore qui consiste à dire que finalement, lorsqu'on voit cet ensemble de pièces, eh bien, évidemment, ceci résonne dans notre esprit, on pense à un vélo, sauf que ce ne sont que des pièces détachées que l'on peut assembler de façon à former une bicyclette, mais en fait, tant qu'on n'a pas vu la bicyclette fonctionner, eh bien, on n'a pas le fin mot de l'histoire, autrement dit, on n'a pas la fonction de l'objet lui-même. Ceci pour dire qu'en termes de quantité d'informations, on va crescendo des pièces détachées à l'objet constitué et puis à l'objet en mouvement qui révèle sa fonction. Et bien pour les molécules, c'est extrêmement pareil. Si on s'intéresse par exemple au ribosome, on peut avoir connaissance des 80 sous-unités qui constituent le ribosome. Si on les connaît séparément, ça n'apporte pas grande information. Si on voit ces 80 sous-unités monter ensemble, eh bien, on voit un objet statique, mais ceci ne nous dit en rien en comment le ribosome effectue la synthèse des protéines. Et finalement, si on veut vraiment comprendre ce qui se passe, il faut comprendre à l'échelle atomique les mouvements que l'on a vu ou que l'on a aperçu sur la vidéo que je vous ai montrée. Et donc, ce que l'on va essayer de faire au cours de cet exposé, c'est de dérouler des modèles qui, en fait, égrènent ces aspects et vont, pour les plus simples, s'intéressent pour les plus simples à des aspects statiques et pour les plus compliqués à des aspects dynamiques. Voilà. Alors, donc ça, c'était la motivation biologique et il faut maintenant que j'introduise un certain nombre de notions qui relèvent de la physico-chimie de façon ensuite à présenter les modèles qui permettent d'effectuer ces prédictions. Alors, la quantité centrale à laquelle on va s'intéresser, c'est ce qui s'appelle la constante de dissociation d'un complexe. Alors, on s'intéresse ici à deux molécules qu'on appelle A et B, et ces deux molécules vont s'associer pour former un complexe qu'on appelle AB ou C, selon. Et on parle ici en fait d'interaction non covalente, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on va supposer que lorsque les deux molécules s'associent, eh bien, on ne crée pas de liaison chimique entre les atomes de A et ceux de B. Bon, ce sont des interactions dites faibles. Et parce que les molécules se trouvent dans la cellule, disons à température ambiante ou à 37 degrés dans notre organisme, eh bien, vous l'avez compris, il y a des mouvements, etc. Et donc le complexe qui s'est formé va pouvoir se dissocier. Et lorsqu'il se dissocie, parce qu'évidemment il existe un grand nombre de copies de chacune des molécules, eh bien, la rouge va pouvoir s'associer avec une autre verte, et ainsi de suite, de telle sorte que si l'on veut comprendre la dynamique de ce process-là, eh bien, les chimistes nous apprennent que l'on peut s'intéresser à cette quantité Kd, qui est le produit des concentrations des partenaires, n'est-ce pas, divisé par la concentration du complexe. Alors, si le KD est très petit, alors le cas extrême est celui où il est nul, auquel cas, eh bien, vous voyez que s'il est nul, cela signifie que tous les A et les B, la concentration en A, bon, si on a la même quantité de A et de B, eh bien, il n'existe pas d'espèces chimiques A ou B seules, elles forment tout le complexe AB. Eh bien, lorsque c'est le cas, eh bien, cela signifie que l'association entre les molécules est maximale. En général, ça n'est pas le cas, et en pratique, eh bien, les KD qui nous intéressent pour décrire les phénomènes biologiques dans la cellule balayent, disons, on peut dire, 9 ordres de grandeur, disons, entre des KD associés à des rencontres fortuites entre les molécules qui ne sont pas, qui forment des complexes qui ne sont pas d'intérêt biologique, à des KD extrêmes qui qualifient les associations permanentes que l'on trouve dans certaines pathologies, n'est-ce pas ? Voilà, donc c'est le KD, la constante dissociation à laquelle on va s'intéresser. Et la thermodynamique nous apprend que ce KD peut se réécrire en fait comme une variation d'enthalpie, delta H, moins T delta S. Alors T, c'est la température, et S, c'est la variation d'entropie du système lorsqu'on passe des deux espèces chimiques prises séparément au complexe. Voilà. Donc dans la suite, on va s'intéresser à, disons, comprendre par quel modèle on peut calculer ces deux contributions delta H et T delta S en utilisant un certain nombre de modèles géométriques, mais plus généralement statistiques. Alors, avant de présenter ces modèles, je vais revenir sur l'aspect dynamique, parce qu'il y a un phénomène fondamental qu'il faut appréhender, qui s'appelle en fait la compensation enthalpie-entropie. Et voici ce qui se passe. Lorsque deux molécules s'associent, en fait, eh bien, c'est parce qu'elles s'attirent, sinon si elles se repoussaient, évidemment, elles ne s'associeraient jamais. Et donc, d'une certaine façon, l'enthalpie, le delta H, qui qualifie l'énergie d'interaction, ce delta H va être négatif si l'association est spontanée. Mais lorsqu'on va mettre ensemble les deux partenaires, A et B, eh bien, ce qui va se passer, c'est que les atomes de A qui vont avoir ou récupérer des atomes de B en vis-à-vis, eh bien, ces atomes vont se trouver dans un environnement qui va être plus contraint, n'est-ce pas ? Puisque ces atomes étaient en surface de la molécule, ils pouvaient bouger de façon relativement... ils avaient un certain nombre de degrés de liberté, ils pouvaient bouger de façon relativement libre, mais ces atomes, lorsqu'ils vont rencontrer se trouver avec des vis-à-vis de la molécule B en face, eh bien, vont voir leur dynamique en fait gênée, en quelque sorte. Et pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec les notions d'entropie, eh bien, cela signifie que l'entropie de ces atomes va baisser, n'est-ce pas ? Donc on va se retrouver, lorsqu'une association a lieu, avec un delta H qui est négatif et un delta S qui est aussi négatif. Et donc si delta S est négatif, moins T delta S qui est ici va être positif. Et donc on se retrouve, lorsqu'on veut évaluer le delta G qui est le log de KD, à comparer une quantité négative avec moins une quantité négative. Et les courbes classiques que l'on rencontre dans les textes de chimie donc, nous montrent à peu près ceci. C'est que le delta H et le T delta S, qui sont en fait des fonctions thermodynamiques de ce qui s'appelle la heat capacity, eh bien, ce sont des fonctions qui sont corrélées, très fortement corrélées, de telle sorte qu'en fonction de la température dont on parle, on ne sait pas quelle est la contribution qui va gagner. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, en termes de, peu importe l'unité, le delta H et le T delta S sont des quantités qui, en général, s'expriment en centaines d'unités, et leur différence s'exprime en quelques unités. Et en fait, le signe de la différence, positif ou négatif, qui nous indique si la réaction va avoir lieu, dépend de la température, puisqu'évidemment, l'entropie dépend de la température. N'est-ce pas ? Donc, ceci pour vous montrer que les modèles dont on va parler, pour développer des modèles efficaces, il est impératif d'avoir des modèles entropiques qui soient pertinents. Donc, voici une illustration sur notre fil rouge qui est celui de la grippe et de son interaction avec un anticorps. Alors vous savez tous que lorsque la réponse immunitaire est satisfaisante pour la grippe, eh bien, vous l'attrapez un dimanche et puis une semaine après vous êtes guéri ou presque. Eh bien, ceci est lié à, entre autres, à un phénomène qui s'appelle la maturation d'affinité qui permet à nos lymphocytes de sécréter des anticorps qui vont coller beaucoup plus au virus de la grippe. Et donc ce qui a été fait dans ce papier très intéressant, c'est la chose suivante, c'est étudier la maturation d'affinité entre un anticorps non mature, UCA, et puis des anticorps matures, en particulier CH65, CH67. Et ce que ses collègues ont fait, donc, eh bien, ça a été de cristalliser, de résoudre à l'échelle atomique le complexe impliquant l'anticorps et l'hémagglutinine. Et ce que vous avez ici, c'est une représentation du complexe, alors avec deux versions de l'anticorps, en jaune la version non mature et en violet la version, l'une des versions maturées, c'est-à-dire CH65. Et en fait, si vous regardez la géométrie du complexe, en fait, cette géométrie est quasiment identique. D'accord ? Autrement dit, entre l'anticorps qui n'est pas spécifique de la grippe et celui qui l'est fortement, la géométrie en fait, est quasiment la même. En fait, les écarts sont de l'ordre de l'angstrom, c'est la taille d'un atome, ce qui n'est pas significatif. Mais si vous regardez maintenant les constantes de dissociation qui qualifient la force de l'association, on est à 118 ici pour l'anticorps non mature et on est à 0,4 ou 0,36 pour les anticorps maturés. Autrement dit, bien que la géométrie soit la même, eh bien le KD a été divisé par 200. N'est-ce pas ? Alors vous pourriez dire, mais comment se fait-il qu'on ait un anticorps qui soit 200 fois plus efficace alors que la géométrie est la même ? La réponse se trouve dans mon slide précédent. C'est un effet anthropique, en fait. C'est une manifestation de la dynamique en fait, des chaînes latérales. Et en effet, si on fait une dynamique moléculaire des anticorps et si on regarde les temps de résidence des chaînes latérales de l'anticorps, des anticorps maturés, 65, CH65 et CH67, eh bien, il s'avère que la dynamique des versions maturées est bien moindre, est inférieure à la dynamique des anticorps maturés, et qu'en plus, les anticorps maturés passent plus de temps dans les conformations qui sont celles que l'on observe dans le complexe. Donc c'est la dynamique qui, ici, rend compte de la spécificité de la réponse immunitaire. Voilà, donc c'était pour enfoncer le clou et sur les aspects dynamiques. Alors, je suis presque au développement des modèles. Je voudrais simplement évoquer un dernier point qui est celui, finalement, des outils que l'on a à disposition pour développer des modèles. Alors, j'ai déjà évoqué les fonctions d'énergie. Alors, je vais définir ces objets-là plus précisément. Donc, lorsqu'on a une molécule, n'est-ce pas, des atomes qui partagent des liaisons chimiques, eh bien, on peut décrire... alors, chaque atome a trois coordonnées, cartésienne, x, y, z, mais on peut aussi travailler en coordonnées internes. Par exemple, les longueurs de liaison, des angles de valence, n'est-ce pas ? Ça, c'est l'angle de valence, θ, entre ces trois atomes. Pour quatre atomes consécutifs, donc les trois premiers définissent un plan par rapport auquel on peut positionner le quatrième atome, ça s'appelle un angle dièdre, etc. Et donc, à partir de ces coordonnées, on peut écrire une fonction d'énergie potentielle. N'est-ce pas ? Alors, évidemment, cette fonction d'énergie potentielle, elle va dépendre à la fois des types des atomes et des types de liaisons chimiques, de telle sorte que les champs de force utilisés aujourd'hui, eh bien, utilisent un nombre de paramètres qui se situe typiquement entre 500 et 1000. Donc, ces fonctions d'énergie, n'est-ce pas, sont très compliquées. Et par ailleurs, ne perdons pas de vue que lorsqu'on parle d'une molécule, par exemple un anticorps, c'est à peu près 14 000 atomes, chaque atome a trois coordonnées, n'est-ce pas ? Donc, pour définir la conformation d'une immunoglobuline, il nous faut 3 fois 14 000 égale 42 000 coordonnées. Donc, calculer l'énergie potentielle d'un anticorps avec un antigène, ça veut dire appliquer une fonction énergie définie par un millier de paramètres à un système qui lui-même a intrinsèquement 40 000 degrés de liberté. N'est-ce pas ? Donc, on parle de systèmes extrêmement compliqués. Voilà. Alors, voici une illustration dans un cas beaucoup plus simple. J'ai pris ces images-là parce que, historiquement, ce sont les premiers calculs d'énergie qui ont été effectués par, alors, en l'occurrence, Karplus, qui a aussi eu le prix Nobel de chimie en 2013. Et donc ici, vous avez la fonction énergie, une fonction énergie appliquée à une petite molécule, n'est-ce pas ? Et vous voyez ici les courbes de niveau de la fonction énergie, 1 kilocalorie d'écart par courbe de niveau. Alors, lorsque la molécule est dans le vide et lorsqu'elle est entourée de solvants. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, lorsqu'on rajoute le solvant, le paysage énergétique se complexifie énormément, ce qui est lié, bien sûr, à la présence de liaisons hydrogènes entre les molécules d'eau et la molécule que l'on étudie. Et alors, évidemment, si vous connaissez de la physique, vous savez que lorsqu'on a une énergie potentielle, eh bien, ceci se traduit en une probabilité associée à la conformation, puisqu'on applique la loi de Boltzmann. Et lorsqu'on applique la loi de Boltzmann au paysage énergétique, qui est celui-ci, on obtient deux conformations possibles pour la molécule. Et vous voyez que maintenant on s'intéresse aux conformations possibles de la molécule immergée dans un solvant, eh bien, le paysage énergétique est beaucoup plus compliqué. Et en fait, les liaisons hydrogènes stabilisent un beaucoup plus grand nombre de structures. Voilà. Donc, dans ce qui suit, on va utiliser des champs de force. Et néanmoins, donc, je souhaite qualifier en quelque sorte la difficulté intrinsèque du problème, un petit peu de la façon, à la façon des bornes inférieures qui ont été évoquées par Jean-Daniel. Jean-Daniel, lorsqu'il a présenté le tri, vous a dit qu'on ne pouvait pas trier n nombres réels avec une complexité qui, dans le cas le pire, est meilleure que n log n. Et donc ici, ce que j'essaie de vous présenter, c'est la difficulté intrinsèque des calculs de quantité thermodynamique à partir des fonctions d'énergie potentielle. Alors, plus spécifiquement, si on s'intéresse à un calcul d'énergie libre de dissociation, moins log de Kd, eh bien, ce que l'on a besoin, c'est de calculer cette intégrale compliquée. Vous voyez qu'ici, on a une intégrale qui nous intéresse, qui concerne le partenaire A. Ici, on a une intégrale la même pour le partenaire B. Ici, on a une intégrale pour le partenaire C. Le problème, c'est que chacune de ces intégrales fait intervenir un nombre de degrés de liberté qui est essentiellement 3 fois le nombre d'atomes de la molécule. N'est-ce pas ? Donc, en fait, la physique statistique a permis le développement de ce genre d'outils et de concepts. Simplement, aujourd'hui, on fait face à des problèmes de calcul, puisqu'on ne sait pas précisément, on ne sait pas calculer ces quantités-là efficacement. Et on peut, à ce sujet, faire le lien avec un problème qui est de nature purement géométrique, qui est le suivant. Alors, pour vous expliquer de quoi il s'agit, eh bien, si on a, pour calculer les intégrales que l'on avait sur le transparent précédent, sont en fait ce qui s'appelle des fonctions de partition en physique statistique. Et donc, de façon discrète, une fonction de partition, c'est simplement une somme sur un ensemble d'états de l'exponentielle moins bêta 1 sur kt, l'énergie de cet état. Et cette somme peut se réécrire comme une somme, non pas sur les états, mais sur les niveaux d'énergie, de la façon suivante, donc le nombre de niveaux d'énergie réalisant l'énergie Ej fois exponentielle moins bêta cette énergie. De façon imagée, si on trace la fonction hauteur correspondant à l'énergie potentielle que vous avez ici, et si on s'intéresse à une tranche d'énergie delta E, alors ici on appliquerait, donc on aurait une contribution avec un facteur de Boltzmann qui serait exponentielle de moins bêta E, n'est-ce pas ? Et donc on a besoin de pondérer ce facteur de Boltzmann-là par le nombre d'états qui réalisent ce niveau d'énergie-là. Autrement dit, il faut projeter dans l'espace des conformations les parties du landscape correspondantes, ce qui veut dire que l'on a besoin de calculer le volume dans l'espace des conformations de ces régions représentées en jaune. Mais ne perdons pas de vue qu'il s'agit ici de calculs de volume dans un espace de dimension plusieurs dizaines de milliers, n'est-ce pas ? Et donc là, on rencontre des difficultés de type algorithmique. Alors, pour qualifier un petit peu la difficulté, eh bien, si ces volumes-là étaient simplement représentés par des polytopes, eh bien, il faut savoir que le calcul du volume d'un polytope en dimension d a une complexité, disons, qui est d à la puissance 4 pour ce qui s'appelle une epsilon delta approximation. Alors, c'est un problème difficile, mais en réalité, donc, pour la physique statistique, le problème auquel on fait face est beaucoup plus compliqué que cela parce que, évidemment, les régions que l'on trouve entre deux courbes de niveau ne sont pas des polytopes, ce sont des courbes de niveau dont la géométrie est arbitrairement compliquée et qu'aujourd'hui, eh bien, personne ne sait modéliser efficacement. Voilà, donc ceci pour, si vous voulez, d'une part définir la quantité à laquelle on s'intéresse, qui est l'énergie libre de dissociation, delta Gd, ou autrement dit moins log de Kd, qui est une quantité que l'on ne sait pas calculer efficacement pour la raison que je viens d'indiquer. Et donc, ce que je vais faire dans la suite, c'est vous présenter deux types d'approches de complexité croissante qui ont vocation, malgré tout, à dire des choses intéressantes. Alors, le premier panel de méthodes relève, disons, du machine learning et plus spécifiquement de la régression. Donc, je vais définir ça plus précisément. Et dans un second temps, on essaiera de dériver vers des méthodes qui, bien qu'on ne sache pas calculer les intégrales multidimensionnelles que j'évoquais, eh bien, essaient d'aller dans cette direction-là. Alors, qui dit approche relevant du machine learning dit base donnée d'apprentissage, n'est-ce pas ? En l'occurrence, le type de base donnée que l'on va utiliser ici, c'est ce qui s'appelle le Structure Affinity Benchmark. Donc, c'est une base de données avec un certain nombre de cas. Et pour chacun des cas, on a en fait, d'une part, des structures cristallographiques haute résolution des partenaires pris séparément et du complexe. Et on a aussi une mesure d'énergie libre de dissociation en conditions physico-chimiques contrôlées, j'entends par là le pH et la température. Et donc, on a grosso modo 150 cas, et à partir de ces données-là, on va essayer donc, de mettre en place des fonctions mathématiques, de la régression, de façon à estimer le Kd. Alors, la régression, évidemment, il s'agit de façon très brève, il s'agit de prédire une variable continue à partir d'un certain nombre de variables dépendantes. Et il existe évidemment toute une littérature sur ce sujet-là. Les méthodes les plus classiques, évidemment, celles que l'on enseigne lorsqu'on commence avec le sujet, donc ce sont les méthodes de régression linéaire. Mais il faut savoir qu'il existe des méthodes beaucoup plus compliquées, avec des termes de régularisation, avec des plus proches voisins, à partir d'arbres, de courbes mathématiques plus ou moins compliquées. Et évidemment, il existe aussi des théorèmes qui garantissent la convergence ou la précision du nombre réel rendu par le régresseur en fonction d'un certain nombre d'hypothèses. Voilà. Alors, évidemment, il va falloir définir les variables à partir desquelles on va définir la constante dissociation qu'on va injecter dans le régresseur. Et là, il y a un écueil majeur qui est évidemment l'overfitting, n'est-ce pas? Puisque, comme on l'a vu, les systèmes dont on parle ont des milliers d'atomes, et donc il est assez facile de définir des centaines ou des milliers de features, et si on définit des régresseurs avec beaucoup trop de paramètres, eh bien on va overfitter, n'est-ce pas? Donc il va falloir faire attention à l'overfitting. Ce que l'on contrôle en général avec de la pénalisation, par exemple de type lasso, en pénalisant les modèles trop complexes, qui utilisent trop de paramètres, ou bien que l'on... phénomène d'overfitting que l'on peut contrôler aussi en se restreignant à des modèles sparses dont les qualités sont contrôlées avec des méthodes de type cross-validation. Alors, j'arrive maintenant, je vais maintenant faire le lien avec le cours de Jean-Daniel, et plus précisément avec la section qui s'intitulait « Diagrammes de sphères » où vous avez vu « et molécules », n'est-ce pas ? Les diagrammes de Voronoi qui sont dérivés de ce qui s'appelle la puissance d'un point par rapport à une sphère. Alors, la motivation biophysique, en fait, remonte aux années 70, lorsque Lee et Richards, en étudiant la densité électronique de structures cristallographiques, ont observé que si on faisait une coupe par un plan dans un cristal, et si on s'intéressait à la variation de la densité électronique, eh bien, en fait, les courbes de niveau de la densité électronique eh bien, ressemblaient à des diagrammes de sphères. En fait, on avait des arrangements de cercles, n'est-ce pas ? Et donc, c'est ce qui a motivé le développement de modèles qui, a priori, peuvent paraître assez naïfs, mais dont on va voir par la suite qu'ils peuvent conduire, dans certains cas, à des résultats, des qualités d'estimation remarquables. Et donc, si vous lisez le papier de Lee et Richard dans le Journal of Molecular Biology, eh bien, l'intuition était excellente. Et donc, Richard nous raconte que la structure, donc, la structure à l'échelle atomique donc, des molécules qui nous donne accès aux coordonnées, n'est-ce pas, des atomes dont la précision dépend des parties de la molécule, évidemment. Dans un cristal, il y a des parties qui sont relativement rigides où les coordonnées sont fiables, et puis il y a des parties qui sont plus flexibles où les coordonnées sont moins fiables. Et puis ensuite, Richard nous explique que la topologie de la surface de la protéine est évidemment liée à sa fonction, puisqu'il y a des parties de la surface qui correspondent aux interactions avec les autres molécules, évidemment, n'est-ce pas ? Si on a une molécule et si on sait calculer sa surface, eh bien les interactions, s'il n'y a pas de réarrangement conformationnel majeur, les interactions vont se faire via la surface moléculaire, n'est-ce pas ? Et par ailleurs, donc, Richard nous explique qu'il y a aussi des interactions entre la surface de la molécule et le solvant, évidemment, les fameuses liaisons hydrogènes que j'ai évoquées tout à l'heure qui stabilisent un certain nombre de structures. Voilà. Et donc, dans ce papier remarquable, Richards introduit les diagrammes de sphères pour représenter donc, les modèles de Van der Waals, pour représenter les arrangements atomiques dans les cristaux de protéines. Donc, en termes modernes et en faisant référence au cours de Jean-Daniel, donc, c'est ce qu'on appelle donc, des diagrammes de Voronoi. Alors, ce qu'on va pouvoir calculer, c'est ce genre de choses, n'est-ce pas ? C'est-à-dire... pour chaque atome, eh bien, on va, si par exemple on s'intéresse à la surface moléculaire, on va vouloir calculer, en modélisant chaque atome comme une sphère, la portion que chacun des atomes expose à l'extérieur, puisque c'est préférentiellement par cette partie-là que l'atome va interagir avec ses partenaires éventuels. D'accord ? Alors, lorsque le modèle a été introduit, évidemment, les gens se sont posé la question de calculer efficacement ce genre de représentation. Et donc là, il y a eu deux étapes majeures. La première par Mike Connolly, et la seconde, en fait, par un collègue géomètre algorithmicien, Edith Brunner, qui a formalisé, qui a fait le lien entre les diagrammes de Voronoi dits de puissance, n'est-ce pas, d'une part, et d'autre part, le bord d'une union de boules, c'est-à-dire exactement la surface moléculaire que l'on souhaite calculer. Alors, donc ça, c'était l'appel du pied, la nécessité de développer des modèles géométriques pour ce type de modèle. Et il y a deux personnes qui ont joué un rôle majeur quatre années plus tard, donc Cyrus Chotia qui était au MRC d'une part et Joël Janin qui était à l'Institut Pasteur, ici même. Et donc Cyrus et Joël ont compris immédiatement que ces modèles allaient permettre de calculer précisément un certain nombre de quantités thermodynamiques. Alors, comme le temps passe, je vais me concentrer sur une citation extraite du papier de Joël. Et donc Joël nous explique que donc il a, à partir donc de diagrammes de Voronoi et de propriétés de surface et de volume associées aux atomes, donc il s'est intéressé à des propriétés spécifiques d'atomes que l'on trouve à l'interface d'un complexe protéine-protéine, en l'occurrence donc un complexe impliquant l'hémoglobine. Il s'est aussi intéressé au rôle de la surface sur l'effet hydrophobe, n'est-ce pas ? etc. Et donc ces deux papiers, couplés au modèle géométrique présenté dans le transparent précédent, ont en quelque sorte lancé la thématique qui, aujourd'hui, a donné lieu à un certain nombre de résultats remarquables et qui permet, avec des modèles qui peuvent paraître relativement simples, malgré tout, d'appréhender des propriétés assez subtiles des molécules. Alors, je vais vous présenter certaines de ces propriétés et, évidemment, on va utiliser les diagrammes de Voronoi. Donc, ce sont des images que vous avez déjà vues. J'avais rajouté, ça c'est la piscine de Pékin, n'est-ce pas ? Si vous vous souvenez des Jeux Olympiques de Pékin, sur laquelle on trouve un superbe diagramme de Voronoi. Alors, quels sont plus précisément les paramètres que l'on va utiliser ? Eh bien, tout, très simplement, donc, les surfaces exposées par les atomes à l'extérieur des molécules d'une part, et d'autre part, ce qu'on appelle le packing des atomes. Et le packing des atomes, c'est ni plus ni moins que le volume défini par la portion d'une sphère restreinte à sa cellule de Voronoi. N'est-ce pas ? Donc, vous reconnaissez ici en pointillé un diagramme de Voronoi comme vous l'avez vu dans le cours de Jean-Daniel. Et ce que j'ai fait là, ce que j'ai représenté en grisé, c'est simplement le volume qui est défini par l'intersection, par la restriction de la boule à sa cellule de Voronoi. Évidemment, cette quantité est intéressante parce qu'on comprend bien que la motivation que je vous présentais, lorsqu'on forme un complexe protéine-protéine, eh bien les atomes se trouvent paqués, empilés dans un environnement qui devient beaucoup plus dense, et donc ce volume restreint est une façon dérivée de capturer l'espace libre dont l'atome va pouvoir jouir pour bouger, et donc ça va nous donner un proxy, comme on dirait en anglais, pour estimer une entropie, en fait. Alors ensuite, bon, ça ce sont les quantités que l'on définit pour chacun des atomes. On peut définir des quantités que je ne vais pas préciser au niveau de l'interface, n'est-ce pas, en regardant la morphologie de l'interface, si elle est, disons, isotrope, si elle est longue et fine, etc. Bon, donc on peut qualifier l'interface avec un certain nombre de descripteurs géométriques et topologiques, et ceci, ces descripteurs vont par ailleurs être colorier, si je puis dire, en faisant intervenir un certain nombre de quantités physico-chimiques relatives à la polarité, en particulier des atomes, ou à leur hydrophobicité. Voilà. Et donc, lorsqu'on a ces descripteurs, eh bien, on peut mettre en place une machinerie de régression dans laquelle on va énumérer un certain nombre de modèles, chacun étant spécifié par les variables elles-mêmes dépendant de ces paramètres géométriques. Et ensuite, donc, on va faire de la cross-validation pour évaluer l'aptitude de chacun de ces modèles à prédire une constante de dissociation en utilisant donc l'affinity benchmark. Donc je ne détaille pas cette étape-là, je vous présente simplement les résultats. Et donc qu'obtient-on in fine ? Eh bien in fine, donc, on a ce genre de diagramme où on a une affinité, un log de KD prédit, n'est-ce pas ? On a un log de KD observé. Et donc ce que l'on a ici, en fait, ce sont... Alors évidemment, ça c'est Y égale X, c'est le cas parfait. Il faudrait que, lorsqu'on est ici, la prédiction colle parfaitement à la mesure expérimentale. Et ici, vous avez des droites qui correspondent à des erreurs de l'ordre de, alors pour la première, 1,4 kcal par mol, et ici, donc 2,8 kcal par mol. Et donc, la conclusion de ce genre d'étude, c'est qu'on sait aujourd'hui, avec ces modèles de régression qui utilisent des paramètres géométriques relativement simples, estimer le KD avec, disons, à un ordre de grandeur près et deux ordres de grandeur près, respectivement, dans 48 et 80% des cas sur l'affinity benchmark. Par ailleurs, lorsqu'on s'intéresse à des structures de haute résolution, c'est-à-dire pour lesquelles les coordonnées des atomes dans le cristal sont connues, disons, avec une meilleure précision, eh bien, ces statistiques montent à 62 et 90%. Alors, si vous êtes familier avec la physico-chimie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ordre de grandeur sur le KD, ça correspond à une erreur de 1,4 kcal par mol. Et pour savoir si ceci est important ou pas, eh bien, on peut comparer à deux témoins, si vous voulez. Le premier, donc, c'est l'énergie associée au mouvement thermique, qui est de KT pour une molécule, de RT pour une mol, et donc ceci vaut 0,6 kcal par mol. Donc, il y a un peu plus d'un facteur 2 sur l'erreur que l'on obtient dans 50% des cas. Donc, vous voyez qu'on est déjà, lorsqu'on estime le KD à 1,4 kcal par mol, eh bien, on est à un facteur juste 2 de l'erreur de mesure qu'on aurait, ou de l'incertitude associée à l'énergie thermique. Et une autre façon d'appréhender la qualité de ce type de prédiction, c'est d'évoquer les erreurs expérimentales sur les mesures de KD, qui sont de l'ordre, disons, 0,3-0,5 kcal par mol. Autrement dit, eh bien, avec des descripteurs très simples, on accède à des prédictions dont on peut dire qu'elles sont excellentes. Le problème limitant, eh bien, c'est que ces descripteurs ont été calculés sur les structures, n'est-ce pas, les structures atomiques, et évidemment, en général, on ne les a pas. Voilà. Et donc, ceci motive la seconde classe d'approches. Ce sont des approches qui vont utiliser des champs de force. Alors, pour évoquer à nouveau la problématique et se recaler, si je puis dire, eh bien, considérons que nous est donnée une fonction d'énergie potentielle qui, lorsqu'on prend un point dans l'espace des conformations, le point qualifie une conformation de la molécule ou du complexe, et à cette conformation, eh bien, on associe une énergie. Alors, lorsqu'on regarde ce type de paysage énergétique, évidemment, on peut le lire de trois façons différentes. Si on s'intéresse à la structure, c'est-à-dire aux coordonnées des atomes, eh bien, on peut simplement énumérer les minima locaux. Donc ici, par exemple, on a un minimum, le minimum global de cette surface d'énergie potentielle va correspondre à la conformation qui a l'énergie potentielle la plus basse, autrement dit, c'est la conformation qui, par la loi de Boltzmann, est la plus probable. Mais en fait, vous comprenez bien que si on se place au voisinage de ce minimum local, eh bien, en fait, on peut déformer la molécule de façon infinitésimale. Autrement dit, toutes les conformations qui se trouvent dans le voisinage, eh bien, elles sont essentiellement interchangeables les unes à les autres. Autrement dit, finalement, on va pas pouvoir, si on s'intéresse à des propriétés macroscopiques, on ne va pas pouvoir raisonner en termes de minima locaux. Il va falloir plutôt considérer les bassins et, en fait, plus généralement, les ensembles de conformations qui sont facilement interchangeables les unes à les autres à une échelle de temps donnée. Et donc, ceci nous amène au niveau thermodynamique qui a vocation à qualifier, disons, les bassins et leur poids statistique. Voilà. Et donc, sur ce paysage-là, eh bien, on peut imaginer que c'est ce bassin-là qui va recueillir, disons, l'essentiel du poids statistique. Ensuite, on a un autre bassin ici, et puis un troisième bassin-là. Voilà, donc ceci décrit, disons, le niveau macroscopique en termes de poids statistique des bassins respectifs. Et enfin, il y a la dynamique entre les bassins, n'est-ce pas? Parce que lorsque les atomes vont se déformer, eh bien, un jour ou l'autre, la molécule va passer de ce bassin au suivant. Autrement dit, on va passer, disons, de cet ensemble de conformation bleu à cet ensemble de conformation rouge. Et donc, pour décrire la dynamique, eh bien, on a besoin formellement de définir des modèles de Markov avec des changements, des probabilités de changement entre les états. Voilà, donc c'est ce que l'on veut faire. Et donc, ce que je vais évoquer rapidement, ce sont deux contributions qui vont dans cette direction-là. Donc, la première contribution va consister en un algorithme d'échantillonnage des paysages énergétiques, et la seconde nous permettra de simplifier les paysages énergétiques. Alors, pour présenter le premier algorithme, eh bien, c'est un algorithme hybride qui dérive de deux approches classiques. Alors, la première approche, c'est un algorithme qu'on appelle l'algorithme de Basing Hopping. C'est une marche aléatoire dans l'espace des minima locaux. Alors, voici ce qui se passe. Donc, on a vocation, encore une fois, on souhaite énumérer les minima locaux du système dont on parle. Et pour ce faire, on va procéder de la façon suivante. On part d'un minimum local MI, qui est ici. Et puis, je vais déformer arbitrairement la molécule. Alors, je vais faire un saut de MI jusqu'à un point ici qui se relève sur le landscape, ici, à l'endroit où je pointe avec mon laser. Et ce que je vais faire à partir de ce point-là, je vais descendre le gradient, minimiser l'énergie potentielle, et ce faisant, je vais arriver sur un autre point critique, un autre minimum local d'énergie potentielle qui va être MI plus 1, n'est-ce pas? Et alors, en fait, je passe d'un minimum local à un autre minimum local. Et évidemment, de façon classique, comme dans tous les algorithmes de métropolis, eh bien, j'accepte le déplacement avec une probabilité qui dépend de la façon dont l'énergie varie. Donc cet algorithme est très intéressant, mais il a la fâcheuse manie de se déplacer relativement lentement dans l'espace des configurations. Autrement dit, il ne va pas très vite pour explorer de façon extensive l'espace des conformations. Alors c'est là qu'arrive le deuxième ingrédient qui a été développé par des collègues roboticiens pour un objectif complètement différent qui est celui de la planification de trajectoires de robots. Et donc l'idée est la suivante, eh bien, c'est qu'ici on va utiliser un diagramme de Voronoi. Alors je vous explique la construction conceptuelle qui marche de la façon suivante. On va dans l'espace des conformations du robot ou de la molécule générer des points et en fait ces points vont être connectés par un arbre. Alors vous avez ici une arête, ainsi de suite. Et donc, je vais vous expliquer comment, à partir d'un point, en générer un nouveau. Alors, imaginons qu'on ait calculé dans cet espace de conformation le diagramme de Voronoi des conformations générées, n'est-ce pas? C'est-à-dire le diagramme que vous voyez en pointillé. Et imaginons par ailleurs que je sache générer de façon aléatoire uniforme une configuration. Alors, autrement dit, je ferme les yeux, je jette une fléchette, elle atterrit ici, PR, R comme random. Et donc, vous voyez que si j'ai le diagramme de Voronoi, je sais localiser la cellule de Voronoi en gris, qui contient la conformation aléatoire que j'ai générée, n'est-ce pas? Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante, c'est qu'on va tracer un segment qui va de ce que Jean Daniel a appelé le site associé à la cellule de Voronoi jusqu'à la configuration aléatoire, et puis là, on va faire un pas d'une longueur prédéterminée, D, n'est-ce pas? Et ce faisant, la cellule de Voronoi étant convexe, on va générer un point qui s'appelle P extended, qui est une nouvelle configuration que je vais relier à la configuration centre de la cellule par une arête. Donc voici l'algorithme qui, encore une fois, fait pousser des branches à mon arbre, et donc ça donne ce genre de choses. Si vous déroulez l'algorithme, eh bien vous avez des branches qui poussent donc dans l'espace des conformations. Alors ici, la couleur correspond en fait à l'énergie potentielle, et comme vous le voyez, cet arbre a la bonne propriété de ramper, en quelque sorte, dans les parties du landscape où l'énergie potentielle est basse. Alors, quelle est la propriété essentielle de cet algorithme? Eh bien, c'est son aptitude à forcer le système à aller où personne n'est allé avant lui. Pourquoi? Parce que si je fais l'hypothèse que je génère une conformation aléatoire avec une probabilité uniforme, eh bien, la probabilité pour qu'une cellule de Voronoi soit choisie va être exactement son volume, renormalisé, bien sûr. D'accord? Autrement dit, quand je jette une fléchette au hasard, eh bien, je vais privilégier la croissance à partir d'un point qui a une grande cellule de Voronoi. C'est la raison pour laquelle, en fait, le système va préférentiellement explorer des régions où il n'est pas allé, parce que ce sont précisément les régions dans lesquelles les points ont de grandes cellules de Voronoi. Et vous voyez qu'en cela, cette stratégie diffère complètement de la stratégie de basing hopping, qui était en fait une marche purement séquentielle, qui avait comme mauvais goût ou comme propriété peu avantageuse de rester coincé dans certaines parties du landscape. Alors évidemment, quand on connaît ces deux algorithmes, il y a une idée extrêmement simple qui consiste à hybrider les deux idées, les deux stratégies. De quelle façon? Eh bien, il suffit de partir d'un point, on fait une marche aléatoire à la basing hopping, donc on se balade dans l'espace des minima locaux, et puis tous les 100 ou 1000 coups, ou avec un paramètre B prédéfini, eh bien, on dit, bon, ici, j'ai assez travaillé, je vais faire croître une branche à partir d'un point pris au hasard, et ce point, on le choisit avec la stratégie précédente, n'est-ce pas? Et cette stratégie, encore une fois, va privilégier les cellules de Voronoi grandes, autrement dit, les régions où le système n'est pas encore allé. Alors ça, c'est une idée qui est assez naturelle, mais en fait, pour la faire marcher correctement, il y a plusieurs pièges, il y a plusieurs difficultés. Bon, donc il faut avoir recours au biais de Voronoi, mais les deux difficultés majeures sont les suivantes. La première, c'est que n'oublions pas qu'on est dans un espace de très grande dimension, et donc si vous êtes familier avec les phénomènes dits de concentration de la mesure, si vous êtes dans un espace de grande dimension, et si vous calculez la norme d'un vecteur aléatoire, vous faites la somme des coordonnées au carré, et donc vous allez avoir quelque chose comme un théorème central limite qui va vous dire que cette somme de coordonnées au carré, elle a un comportement gaussien, autrement dit, les valeurs vont être concentrées sur, en l'occurrence, racine au carré de la dimension, et donc... Ce qui se passe ici, c'est que le choix de la cellule de Voronoi se fait par un calcul de distance. Et donc, si vous faites des calculs de distance naïfs, en fait, la stratégie ne va pas bien marcher. Et la belle idée du biais de Voronoi, en fait, peut s'avérer stérile. Bon, c'est la première difficulté. Et la seconde difficulté, eh bien, consiste à utiliser la topographie du landscape, n'est-ce pas? Puisqu'on comprend bien que dans un paysage énergétique, peut-être une façon imagée de se le représenter est-il de faire référence à une montagne. Alors sur une montagne, il y a des parties qui sont verticales, n'est-ce pas? Pensez au massif du Mont-Blanc, et puis il y a des parties presque plates, les glaciers, n'est-ce pas? Et on comprend bien que sur un glacier, on peut faire de très grands pas, mais quand on s'approche d'une paroi abrupte, il va falloir être plus délicat, ou de la même façon, si on est tombé dans une crevasse et si on remontait, il va falloir faire des petits pas. Et donc, de la même façon, lorsqu'on veut explorer les paysages énergétiques moléculaires, il faut aussi faire attention à localiser le critère de métropolis Hastings, sinon on passe son temps à rejeter des conformations. Ceci étant dit, donc je vais vous montrer un résultat de cet algorithme sur un système de complexité intermédiaire, qui est un modèle de protéines, où on a en fait 69 pseudo-acides aminés. Donc chaque acide aminé a trois coordonnées, et donc 3 fois 69 égale 207. Donc ici, on est en train d'explorer un espace de conformation, disons, de dimension 207. Alors pour alanine dipeptide, je vous ai montré le paysage énergétique, et puis on a vu que dans le solvant, il y avait essentiellement 7 minima locaux. Donc ici, il faut savoir qu'à partir du moment où on part de système avec, disons, au-delà de 50 atomes, eh bien, le nombre de minima est absolument astronomique. C'est-à-dire, on parle de millions, de milliards. Le nombre de minima locaux sur le paysage d'énergie potentielle est astronomique, n'est-ce pas? Donc, en fait, échantillonner les systèmes est déjà un objectif majeur. Et donc, on s'est intéressé, ce système-là avait été pas mal étudié, donc nous sommes intéressés à échantillonner son paysage énergétique. Et donc, pour faire bref, ce qu'on a fait, c'est qu'on a doublé le nombre de minima locaux qui avaient été reportés dans la littérature. Alors, pour voir ça, il y a une statistique intéressante, enfin, il y en a deux, en fait. Donc, ici, nous avons, je vous ai dit que dans notre algorithme, il y a un paramètre qui est le nombre de pas de basing hopping que l'on fait avant de prendre une conformation au hasard. Et donc, c'est la raison pour laquelle, ici, vous avez quatre versions de notre algorithme, puisque ça correspond à quatre valeurs de ce paramètre différentes. Et donc, ce que l'on a ici, c'est qu'on a demandé à chaque algorithme de générer un certain nombre de minima locaux, et on a pris la diagonale de la boîte englobante les comprenants. Et vous voyez que notre algorithme génère un ensemble de minima qui occupe beaucoup plus d'espace que l'espace occupé par les minima générés par les compétiteurs, c'est-à-dire les deux algorithmes dont on dérive. Basing hopping d'une part et l'algorithme utilisant le biais de Voronoi d'autre part. Voilà. Et par ailleurs, de façon très intéressante, si on s'intéresse au niveau d'énergie des minima que l'on a trouvé, eh bien, en fait, on trouve aussi non seulement plus de minima, mais en fait, ces minima sont aussi plus bas. Et rappelez-vous que ces minima, ensuite, vont être injectés dans la loi de Boltzmann, et donc, il faut absolument trouver et rester dans les parties basses du landscape, sinon, la loi de Boltzmann dit que les probabilités vont être ridicules. Voilà, donc cet algorithme permet d'explorer le landscape. Alors ensuite, on peut aussi calculer les points sels d'index 1, auquel cas on génère ce qui s'appelle un graphe de transition, c'est-à-dire un graphe dont les sommets sont les minima locaux d'une part et les points sels d'index 1 d'autre part. Et donc ce graphe, en fait, c'est d'une certaine façon l'objet mathématique qui nous dit comment on peut passer d'un bassin à un autre en indiquant la hauteur du point sel le plus bas qui mène d'un bassin à un autre. Et donc pour des systèmes réels, alors ici c'est un cluster de Lennard-Jones, pour BLN j'aurais pu prendre 10 exemples différents, eh bien lorsqu'on veut tracer ces graphes de transition, eh bien on obtient en fait des dessins qui sont inexploitables, ne perdons pas de vue qu'on a ici des millions de sommets, n'est-ce pas? Et donc la question qui se pose, et c'est la même, est de savoir comment on va simplifier ce type de descripteur de façon à faire apparaître des propriétés macroscopiques. C'est un petit peu comme en physique statistique, lorsqu'on veut passer de la conformation isolée, qu'on appelle un micro-état, à un état, ou un macro-état, n'est-ce pas? Et donc là, on va faire appel à un outil mathématique que Jean-Daniel présentera dans son cours, qui s'appelle la persistance topologique, que je ne vais pas définir en détail, mais que je vais essayer d'expliquer intuitivement. Donc imaginez que vous vous approchiez d'une chaîne de montagnes. Alors si vous êtes à des centaines de kilomètres, vous allez voir les sommets principaux, le Mont Blanc, n'est-ce pas, l'Aiguille Verte, que sais-je. Bon. Et à partir du moment, lorsque vous allez vous rapprocher, eh bien les détails vont commencer à apparaître. Et donc la persistance topologique, c'est la construction mathématique qui permet de stratifier, c'est-à-dire de détecter les échelles en mettant en évidence les grandes échelles, les échelles intermédiaires et les petites échelles. Et donc ici, ce que l'on a, en fait, ce qu'on appelle, quel est précisément... Comment qualifie-t-on ces échelles-là dans nos objets à nous? Eh bien, tout simplement, comment qualifier la profondeur d'un bassin? Eh bien, c'est tout simplement l'écart d'altitude entre la hauteur du minimum associé à ce bassin et le point sel qui lui est associé. Et vous voyez que si cette hauteur est faible, c'est un tout petit bassin. Donc c'est ce que l'on a ici. Ce sont des points qui sont en fait qui correspondent à des bassins tout petits. Si à contrario on a une hauteur très élevée entre le minimum associé à un bassin et le point sel qui permet d'aller à un bassin plus profond, eh bien cela va correspondre sur ce diagramme à des points qui sont loin de la diagonale. Et alors vous voyez que sur ce type de système, si on trace la distribution des hauteurs de barrière, eh bien on obtient ce genre de courbe. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, donc la hauteur dont on parle, c'est ce qu'on appelle la persistance. Et vous voyez qu'essentiellement, si on veut une persistance élevée, disons ici au-delà de 3 unités, eh bien vous voyez qu'il y a moins de 10% des bassins qui la réalisent. Et donc ceci est une façon de stratifier ou de décrire les différentes échelles que l'on observe sur un système tel que, en l'occurrence, un cluster de Lennard-Jones ou une protéine. Et donc on est en train d'apprendre un certain nombre de propriétés spécifiques qui qualifient, disons, la physique macroscopique du système. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important. Voilà. Donc, lorsqu'on a fait cela, évidemment, on s'approche de la description, disons, thermodynamique macroscopique, mais on n'a pas, évidemment, résolu le problème central qui consiste à calculer le volume des bassins via les calculs d'intégrale que j'évoquais. Donc, j'arrive à la fin de mon exposé. Je voudrais juste faire 2-3 petites remarques pour terminer. Alors, la première est la suivante. Donc, finalement, j'ai évoqué 2 types d'approches. Des approches relevant de la régression d'une part, des approches utilisant des champs de force d'autre part. Ces approches-là sont-elles radicalement différentes? En fait, la réponse est non. Parce que il faut savoir que lorsque les gens qui développent des champs de force, eh bien, doivent calibrer des centaines ou des milliers de paramètres. et les valeurs qui sont affectées à ces paramètres le sont en utilisant des méthodes statistiques qui sont les mêmes que celles qu'on utilise pour la prédiction d'affinité. Et en fait, il s'agit de prendre les valeurs de paramètres qui font en sorte, qui sont telles que les calculs que l'on fait génèrent des quantités physiques observées, telles que la heat capacity, la densité, la viscosité, les températures de changement d'état, la tension de surface, etc., dont les valeurs de paramètres sont choisies de façon à matcher des observables expérimentaux, n'est-ce pas ? Alors, évidemment, les gens travaillent sur des petites molécules organiques et pas des protéines, ce qui leur permet, il faut ici une grande base de données, n'est-ce pas, pour calibrer les milliers de paramètres dont on a besoin. Voilà. Mais essentiellement, le développement de champs de force ou la prédiction d'affinité, c'est simplement une question d'échelle plutôt qu'une question une question de méthode. Voilà. Alors, le point suivant que je voudrais discuter, finalement, est le suivant, c'est que nous manque-t-il ? Pourquoi ces problèmes sont-ils aussi difficiles ? Et que nous manque-t-il pour entrer de plein pied dans une ère qu'on pourrait qualifier de l'ingénierie à l'échelle atomique, n'est-ce pas ? Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, si on était capable de faire des calculs de thermodynamique et de dynamique fiables sur ces systèmes-là, eh bien, cela révolutionnerait un certain nombre d'applications. Mais en fait, il nous manque un certain nombre d'ingrédients majeurs. Alors, concernant les surfaces d'énergie potentielle, ce qui nous manque, c'est l'aptitude à échantillonner les parties basses du landscape de façon exhaustive, parce que c'est là que, essentiellement, se situe la physique du système. Donc, ça, c'est pour l'énergie potentielle. Pour l'énergie libre, autrement dit, la quantité qui fait intervenir la fonction de partition, eh bien, il nous manque des algorithmes de calcul intégral en grande dimension, des classes de méthodes qui relèvent de ce qui s'appelle les ensembles multicanoniques. Et donc là, il y a des liens forts en fait avec les calculs de volume sur les polyèdres, qui sont des problèmes purement géométriques. Et donc, il y a un certain nombre de questions ouvertes importantes. Et concernant la dynamique, évidemment, il manque des modèles multi-échelles de Markov permettant de bien comprendre la dynamique du système. Et donc, si on savait faire tout ça, évidemment, on ferait des progrès considérables en biologie, parce qu'on serait capable de comprendre la façon dont les molécules s'associent, n'est-ce pas ? Cela donnerait aussi un certain nombre de points de vue importants sur l'évolution, en fait, la façon dont les molécules, les protéines en particulier, ont évolué et ont dérivé en suivant l'arbre d'évolution des espèces. Et en particulier, donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on connaît à peu près 80 millions de séquences codantes pour les protéines, des séquences que l'on trouve dans Uniprot et Trimble. Et en termes de structure, on a tout simplement, disons, 10 à la puissance 5 structures dans la protéine databank. Donc en fait, il y a au moins 3 ordres de grandeur d'écart entre les séquences dont on sait qu'elles codent pour quelque chose d'intéressant et les structures, c'est-à-dire les objets physiques qui permettent d'appréhender les fonctions biologiques à l'échelle atomique. Alors évidemment, si on savait faire tout ça en immunologie, pour le traitement des cancers, en neurosciences, on pourrait faire des choses extraordinaires. Mais encore une fois, il y a un certain nombre d'obstacles majeurs pour l'instant. Alors, évidemment, il y a des communautés considérables qui travaillent sur ces sujets-là, donc je voulais évoquer cet ensemble de scientifiques éminents qui ont obtenu le prix Nobel. Il y a eu en fait une vingtaine de prix Nobel relatifs à, disons, la biologie structurale en 50 ans. La plupart sont des prix Nobel expérimentaux. Celui qui est le plus proche et qui, des thématiques que j'ai évoquées, évidemment, est celui qui a été octroyé à Martin Karplus, Michael Levitt et Harry Warshell en 2013. Donc, pour le développement en fait, de méthodes multi-échelles permettant de modéliser des systèmes chimiques complexes. Donc, j'ai évoqué dans mon exposé donc, les premiers calculs d'énergie dans le vide et avec solvant de Martin Karplus, la dynamique moléculaire de Michael. Harry a également travaillé avec Michael en particulier sur ces problèmes de dynamique moléculaire. Donc, c'est l'historique de la thématique. Et pour conclure, en fait, je voudrais évoquer les liens entre mon exposé au sens large et les sujets qui seront abordés dans le cours de Jean-Daniel, parce qu'en fait, il y a des sujets extrêmement... il y a plusieurs relations extrêmement importantes. Alors, le premier cours, évidemment, vous avez vu les modèles géométriques, en particulier les diagrammes de Voronoi et les diagrammes de sphères qui nous permettent de calculer des paramètres qui sont utilisés pour estimer des quantités et qui nous permettent aussi de naviguer dans les espaces de grande dimension pour mieux échantillonner les conformations des molécules. Le cours suivant, sur la puissance de l'aléa, évidemment, les méthodes randomisées, comme j'en ai évoqué au sujet de l'enveloppe convexe, les algorithmes randomisés sont en général des stratégies élégantes et efficaces pour résoudre des problèmes compliqués et évidemment, ils sont utilisés à tour de bras en modélisation moléculaire pour explorer les espaces, en particulier via les algorithmes Monte-Carlo. Le calcul géométrique, c'est quelque chose de critique aussi. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a un grand nombre d'atomes, eh bien, vous imaginez bien qu'on va très rapidement arriver à des situations qui, géométriquement, sont presque dégénérées. Donc, par situation générée, on entend par exemple dans le plan le fait d'avoir trois points alignés. Si on perturbe à peine les coordonnées, eh bien, on n'a plus une seule droite, mais on en a trois. Et donc, lorsqu'on a des ensembles d'atomes avec beaucoup d'atomes, eh bien, on a toujours des configurations presque dégénérées. Et si on ne maîtrise pas ce qui s'appelle des prédicats et des constructions précisément, eh bien, en général, l'algorithme plante ou produit un résultat faux et on ne le sait même pas. Bon, donc c'est absolument critique. Les maillages sont un sujet aussi extrêmement important, en particulier pour l'électrostatique et ce qui s'appelle les modèles de Poisson-Boltzmann. Les courbes et les surfaces. Donc, j'ai évoqué la nécessité, par exemple, lorsqu'on s'intéresse à une surface d'énergie potentielle, d'attraper tous les minima qui sont suffisamment bas. Eh bien, ceci pourrait être formulé comme un problème de reconstruction des parties basses du landscape. Et donc là, la question qui va se poser, que Jean-Daniel enseignera, c'est comment arriver à reconstruire un objet de façon fiable, à la fois du point de vue géométrique et topologique. Les espaces de configuration, c'est évident. Explorer des espaces de configuration comme ceux des molécules. Et les structures données géométriques, vous l'avez vu, sont omniprésentes à plein endroit, n'est-ce pas ? Et enfin, donc, un sujet qui est d'importance cruciale aussi est celui de l'analyse géométrique et topologique des données, en particulier avec la persistance topologique, donc, qui est le sujet que j'évoquais lorsque je vous ai présenté très rapidement la simplification des energy landscapes. Voilà. Donc, si le sujet vous intéresse, vous avez un certain nombre de références ici que vous pourrez consulter, avec des contributions récentes et évidemment la bibliographie afférente. Un sujet qui est absolument critique aussi, c'est celui du logiciel. Pour faire bref, on peut dire que le logiciel est aux informaticiens ou aux bioinformaticiens, ce que les télescopes sont aux astrophysiciens. Si on n'a pas d'outils logiciels élaborés, eh bien, on ne peut pas mener à bien des recherches ambitieuses. Et donc, il y a plusieurs librairies qui sont ambitieuses à la fois en géométrie et en modélisation moléculaire. Pour la modélisation moléculaire, donc, en voici une que nous avons initiée il y a quelques années, qui s'appelle donc la Structural Bioinformatics Library. Voilà, je terminerai par des remerciements. Donc, je voulais évoquer la mémoire de Gilles Kahn, qui a été notre directeur et qui, avec sa grande curiosité, nous stimuler en nous demandant dans quelle mesure les modèles géométriques pouvaient aider les gens à modéliser les protéines. Et donc, Gilles a participé au démarrage de cette activité de cette façon-là. Voilà, et puis ensuite, les collègues, bien sûr, et étudiants. Alors, en particulier, Jean-Daniel, qui m'a permis d'être recruté dans son équipe en 98 déjà. Donc, finalement, j'ai appris de la géométrie algorithmique pendant 10 ans, et puis ça fait 10 ans que j'essaie, comme tu l'as dit, de marier les deux approches. Joël Janin, qui est une autorité en structure des protéines et qui a, d'une part, initié certains des travaux que j'ai évoqués, qui a de suite cru, disons, en les approches que nous développions à Sophia Antipolis. Sylvain Pion, qui donnera un séminaire ici. Donc, bon, vous verrez. Dorian Mazorik, un expert d'algorithmique. Juan Cortés, qui s'intéresse en particulier à la robotique. Donc, dans le registre plus appliqué, Charles Robert, pour son apport concernant la biophysique, Pierre Boudineau pour l'immunologie, Félix Ray pour la virologie, et un certain nombre d'étudiants. Voilà, je vous remercie.